Vous êtes sur RTL.
On refait le sport sur RTL.
Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour m'accompagner cette semaine. Amaya Cazenave du service des sports du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Amaya.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Est-ce que vous avez amené vos gants de boxe ?
Alors non, je préfère pas parce que je vais être ridicule.
Non, mais moi je fais un peu de boxe française, j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait. C'est une demi-heure encore exceptionnelle effectivement que nous vous avons concoctée, puisqu'après avoir enflammé Roland-Garros vendredi soir, les boxeurs Tony Yoka et Souleymane Sissoko sont avec nous. Bonsoir messieurs, tout d'abord bonsoir Souleymane en studio avec nous, remis de vos émotions de vendredi.
Remis, j'ai passé un très bon moment vendredi et je suis très content d'être là ce soir.
On va en parler très longuement et il est au téléphone avec nous parce que visiblement la circulation est difficile. Bonsoir Tony Yoka.
Bonsoir, bonsoir.
Comment ça va?
Bah écoutez, ça va très bien, ça fait 2 heures que je suis en voiture, c'est compliqué le dimanche soir.
Est-ce qu'on aura la chance de vous avoir en studio dans quelques minutes ?
Non, malheureusement, je vais arriver. Ça fait que repousser et je vais arriver pour 19h55.
Ah, ça va être compliqué. Voilà. Bon, écoutez, vous restez avec nous au téléphone ?
Bien sûr, je suis là.
Et puis, je crois que vous avez un bon avocat qui vient de vous envoyer un message pour vous dire que ce serait bien d'être au téléphone aussi. Bonsoir, Arnaud Péricard.
Bonsoir.
Maire de Saint-Germain-en-Laye, et je le disais, donc avocat de Tony Yoka, mais également de Pierre Gasly, le pilote de F1, qui n'a pas vraiment été à la fête aujourd'hui. On y reviendra dans un instant. Vous l'avez eu au téléphone ?
J'ai pas eu Pierre, on a échangé par WhatsApp ce matin. Pierre adore l'adversité, donc j'étais persuadé que cette adversité allait le motiver. C'était bien parti, il a gagné 3 places dès le départ, et puis après il y a eu un contexte de course qui était compliqué aujourd'hui.
Ouais. Tout d'abord, il y avait du football aujourd'hui, 5e journée de Ligue 1. Bonsoir Quentin Vasselin.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Il y avait 6 matchs cet après-midi. Bordeaux s'est tout d'abord sabordé contre Lens.
Oui, défaite 3-2 des Girondins sur leur pelouse contre les Nordistes. Bordeaux, revenu à 2-2 à la 88e, a réussi la performance de concéder un pénalty dans la foulée. Seko Fofana s'est chargé de la sentence. Nice, de son côté, ça vient de se terminer, ne gamberge pas grâce à Dolberg et Guiri. Victoire 2-0 à Nantes, seulement 4 jours après avoir été sanctionné par la LFP. On le rappelle, Nice perd 1 point au classement suite aux incidents lors de la rencontre contre l'OM. Les Aiglons sont 4e du classement malgré tout. Montpellier lui apprend vite à vivre sans Laborde et Delors. Victoire 2-0 contre Saint-Etienne grâce à Mavi Didi et Valère Germain, déjà buteur pour sa première apparition. 3 lui gagne enfin. Victoire 2-0 sur la pelouse de Metz. Premier but en Ligue 1 pour Gerson Rodriguez, tout juste arrivé du Dynamo Kiev. Match nul entre Brest et Angers. Histoire de pénalty. Fèvre d'abord pour les Bretons avant les de Thomas Mangani. Enfin, Rennes confirme sa méforme en perdant 2-0 à domicile contre Reims. Deuxième défaite consécutive en Ligue 1 pour les Rennais.
Et à 20h45, Lyon reçoit Strasbourg et c'est à suivre bien sûr dans RTL Foot à partir de 20h.
Hamilton et Verstappen côte à côte. Il passe.
Oh oui,
oh non, ils sont là sur l'eau.
Victoire de Daniel Ricciardo, victoire de McLaren et doublé de McLaren aujourd'hui à Monza.
Julien Febraud et Franck Montagny, nos confrères de Canal+, ne se sont pas ennuyés cet après-midi. Et il y en a une qui doit être ravie en tous les cas de la victoire de Daniel Ricciardo, c'est Emma Raducanu, la Britannique de 18 ans qui a fait sensation hier en remportant l'US Open de tennis. C'est une fan de sport mécanique, elle fait du karting et son idole c'est tout simplement l'Australien Ricciardo. Voilà, tout ce qu'elle touche est en or un petit peu en ce moment. Mademoiselle Raducanu, bonsoir Frédéric Veil. Frédéric, est-ce que vous êtes avec nous ? Allô, allô, Frédéric.
Oui, je suis là, bien évidemment.
Notre spécialiste Formule 1 RTL, joli doublé pour McLaren, mais le vainqueur n'est pas celui qu'on attendait.
Oui, mais en tout cas, c'est une victoire qui fait du bien, une victoire qui fait plaisir, parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas vu le sourire de Ricciardo sur la première marche du podium, qu'on ne l'avait pas vu boire du champagne dans sa chaussure. Monaco 2018, sa dernière victoire de l'Australien. Il était à l'époque chez Red Bull, il s'est ensuite un petit peu perdu chez Renault, il pernait depuis son arrivée chez McLaren, mais là, la victoire elle est incontestable. Envol parfait pour avoir la première place à Verstappen. Et ensuite, il a su gérer à la fois son avance, ses pneus, sa pression pour terminer devant l'autre McLaren, celle de Lando Norris. Quatrième podium cette saison pour le jeune Britannique et premier doublé pour McLaren depuis 2010. Une éternité, c'était au Canada. À l'époque, les deux pilotes s'appelaient Hamilton et Button. Alors que la dernière victoire d'une McLaren, c'était quand même Button également. C'était en 2012 à Interlagos. Donc ça va vraiment, vraiment faire du bien à McLaren. Quand on sait que l'écurie anglaise, rappelons-le, avait failli disparaître hein, l'an passé à cause de la crise sanitaire, qui a dû vendre un tiers de son capital pour poursuivre en F1. En tout cas, superbe doublé de McLaren et la troisième place pour Bottas. Ça fait donc trois moteurs Mercedes sur le podium.
Et surtout, Fred, on a envie de parler de ce qui s'est passé dans ce Grand Prix d'Italie. L'incroyable accrochage entre Verstappen et Hamilton.
Oui, tout s'est joué au 26e tour, au moment où Hamilton était en tête. Il rentre au stand, il change ses pneus. Verstappen l'avait fait 2-3 tours avant. Il ressort à la hauteur de Verstappen. Les deux hommes abordent donc la première chicane de front. À qui la faute ? Eh bien, apparemment, Verstappen, puisque l'enquête de la FIA vient de tomber, et elle vient d'infliger 3 places de pénalité sur la grille à Verstappen, une sanction qui sera appliquée lors du prochain Grand Prix en Russie dans 15 jours. Quoi qu'il en soit, les deux monoplaces se sont accrochées, et celle de Verstappen s'est envolée au-dessus de celle d'Hamilton. On a vu la roue arrière droite du Néerlandais venir taper la tête du Britannique, heureusement protégé par son halo. Vous savez, c'est cet arceau en titane qui est fixé au-dessus de la voiture. On ose à peine imaginer, si ce halo n'avait pas été là, ce que serait advenu d'Hamilton, car c'est plus de 600 kilos qui s'écrasent à ce moment-là sur la Mercedes du 7 sup, le champion du monde, qui a expliqué tout à l'heure, on le sentait un petit peu groggy, avoir un peu mal tout de même au cervical, on le comprend.
Arnaud Péricard, le Grand Prix de France, vous connaissez bien aussi. Ce halo, il a été décrié hein, par quelques pilotes, mais finalement on se rend compte qu'entre Romain Grosjean et Lewis Hamilton aujourd'hui, il a sauvé des vies.
Il sauve des vies, il a été très décrié par beaucoup de pilotes, hein, pas uniquement par quelques-uns, sur les problèmes de visibilité que ça pouvait générer. Je pense que maintenant c'est un non-sujet. La FIA a mis la sécurité au cœur de ses préoccupations, ça fait longtemps, c'est peut-être des objectifs qui avaient été mal compris par certains pilotes et certains promoteurs qui veulent évidemment toujours plus de spectacles, mais je crois que voilà, il y a malheureusement, c'est un sport qui est dangereux, peut-être plus que les autres. Et après, on a tous en mémoire, évidemment, ce qui s'est passé avec Romain à Bahreïn. Et puis maintenant, ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que ce n'est plus un sujet. La sécurité et ce halo sont prioritaires.
Vous avez déjà sauvé Charles Leclerc à Spa, hein, il y a 2 ans, quand Alonso était passé au-dessus de la voiture de Charles Leclerc. Hein. Ah. Il ne faut pas l'oublier aussi.
Hein. Souleymane, vous avez regardé le Grand Prix cet après-midi ? Non ?
Non, je n'ai pas eu le temps de...
Vous n'avez pas encore vu les images ? Amaya a une très belle photo... très impressionnante photo de la roue de Verstappen sur la tête d'Hamilton. Elle est assez incroyable. Côté français, Frédéric Veil, ça n'a pas vraiment souri à Pierre Gasly, dont on se souvient de la belle victoire l'année dernière.
Bah oui, ça, on s'en souvient tous, forcément. Il est tellement rentré dans les annales. Et puis voilà, on était tellement heureux pour lui l'an passé que cette année, ça n'a pas été ça. Hein. Déjà dès hier, à la sprint, il était sorti, il y a eu trop de problèmes sur la voiture, on a changé plein d'éléments moteurs, il a tenté un départ aujourd'hui, puis finalement au bout de 2 tours il a vu que ça le ferait pas. Grosse désillusion quant à Esteban Ocon, l'autre français, là aussi les Alpines peinent, 10e place seulement pour Esteban Ocon alors qu'il y a peut-être mieux à faire cette année.
Arnaud Péricard, je le disais, vous êtes aussi l'avocat de Pierre Gasly. La semaine a été compliquée aussi pour lui parce qu'il a encore snobé par Red Bull pour 2022. C'est quelque chose qu'il a du mal à vivre.
Non, je relativisais peut-être ce qui a été dit cette semaine dans la presse, surtout qu'on vient d'annoncer l'extension pour 2022 pour Pierre chez AlphaTauri. Il y a une relation qui est évidemment compliquée. Helmut Marko est quelqu'un d'exigeant et de compliqué, c'est pas un scoop hein, pour tout le monde, surtout avec les pilotes qui sont issus de sa filière. Pierre mérite un meilleur volant, je crois que c'est indiscutable, tout le monde est d'accord, Ross Brawn l'a dit encore il y a quelques jours, la question c'est quand. Ça sera très certainement pas pour l'année prochaine, peut-être, je l'espère, pour après, mais je crois que là-dessus ça fait pas débat non plus, il doit avoir des chances de concourir dans une meilleure écurie.
C'est votre petit protégé aussi Fred Veil, hein, Pierre Gasly.
Comment vous savez ça?
Parce que vous avez écrit un livre.
Bah oui, puis j'ai la chance de très bien le connaître, je l'ai vu naître ce gamin-là, donc c'est un peu le fils de mes amis, de mes meilleurs amis de 30 ans. Donc.
Fred, prochain Grand Prix, c'est quand?
Mais dans 15 jours, ce sera à Sochi en Russie, encore un circuit qui devrait favoriser les Mercedes. Et puis surtout avec cette annonce qui vient de tomber, les 3 places de pénalité pour Verstappen sur cette première course.
Quentin Vastin, merci beaucoup Fred Veil, bonne soirée.
À bientôt.
Quentin, il y avait aussi de la moto aujourd'hui avec le Grand Prix d'Aragon. Ça a été compliqué pour Fabio Quartararo, notre Français.
Oui, il termine 8e de ce Grand Prix en Espagne. Un Grand Prix remporté par Francesco Bagnaia sur Ducati. La première victoire de la carrière de l'Italien. Johann Zarco ne prend lui que la 17e place. Mais on se rassure, au général, Quartararo garde la tête avec 53 points d'avance sur le vainqueur du jour. Zarco est lui maintenant 4e. Il ne reste que 5 Grands Prix. On n'est quand même pas très loin de voir notre Français champion du monde de moto GP, ça serait quand même un événement exceptionnel.
Ça vous intéresse la moto, Suleiman ?
Ça m'intéresse, mais c'est très dangereux, nous, en tant que boxeur.
En général, il n'y a pas le droit dans les assurances ?
Exactement, on nous interdit d'en faire. Donc
le rallye de loin. Le rallye de Grèce, bonne performance de Sébastien Ogier.
Oui, pas sûr que Suleiman puisse également monter dans une voiture de rallye. Question d'assurance, le Français prend la 3e place du rallye de l'Acropole au volant de sa Toyota. Il se rapproche de son 8e titre mondial en WRC. C'est le jeune Finlandais de 20 ans, Calais Rovan Perä, qui s'impose en Grèce. Sébastien Ogier compte 44 points d'avance sur Elfyn Evans au classement général. À 3 rallyes de la fin, là encore, les Français brillent en sport mécanique.
Et bien sûr, l'événement à ne pas manquer ce soir, c'est la finale de l'US Open.
Oui, elle pourrait marquer l'histoire du sport, du tennis. Finale entre Novak Djokovic, numéro 1 mondial, et Daniil Medvedev, le russe numéro 2 mondial. Choc de titan à partir de 22h qui pourrait donc faire basculer la carrière de Novak Djokovic. Le Serbe peut devenir le premier joueur à réaliser le Grand Chelem calendaire depuis Rod Laver en 1969. Ça ne nous rajeunit pas. Novak Djokovic peut aussi décrocher son 21e Grand Chelem, ce qui ferait de lui le joueur le plus titré de l'histoire du tennis devant Federer et Nadal, qui sont un petit peu légers là, les deux légendes, avec leurs 20 grands chelems, hein, n'est-ce pas?
Tony Yoka, vous êtes toujours avec nous? Tony?
Oui, toujours.
Vous avez la télé dans votre voiture?
La télé?
Oui, vous avez la télé dans votre voiture?
Je laisse mon téléphone, pourquoi?
Non, c'est pour savoir si vous allez regarder la finale de l'US Open ce soir, c'est à 22h, vous serez chez vous?
Ah oui, je serai chez moi.
Est-ce que vous allez la regarder, cette finale Djokovic-Medvedev?
Je vais la regarder, évidemment, parce que en gagnant ce match-là, Djokovic rentrerait encore plus dans l'histoire.
Ouais.
Je pense que c'est un match hyper important et je suis un très grand fan de Novak Djokovic.
Ah, pas mal. Bon, c'est pas trop mon chouchou, donc je trouve que c'est... Pourquoi
c'est d'autant plus intéressant, parce que d'habitude, Djokovic, il divise.
Il y a beaucoup de gens qui ont des chouchous, Federer et Nadal, mais moi, je sais pas, j'ai toujours aimé Djokovic parce qu'il a débarqué un peu... comme ça, comme un cheveu dans la soupe, et depuis 10 ans, il a mis tout le monde d'accord, il est en passe de dépasser ces deux grandes légendes.
Arnaud Péricard, vous avez quelque chose à dire? Non,
j'ai pas. Moi, le tennis, évidemment, vous savez, moi, je suis le petit-fils d'Henri Cochet, donc j'ai quelques notions, mais c'était il y a 100 ans. Et donc,
pour ceux qui ne savent pas qui est Henri Cochet, ouais, c'est un de nos fameux mousquetaires. Hein.
Donc, vous voyez, mais c'est vrai que je rebondis sur ce que dit Tony. Il a toujours été un peu Djoko, voilà. Il a un peu pâti de cette lumière entre ces deux grands champions que sont Nadal et Federer. Et ce soir, il fait quand même, depuis Rod Laver, s'il y arrive, un exploit magistral, quoi.
Suleiman, vous serez devant votre télé ?
Bien sûr, j'y serai devant et je pense qu'il va accomplir cet exploit.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Qu'est-ce qu'il a de plus ?
L'histoire. Déjà, il veut rentrer dans l'histoire.
À défaut d'avoir l'amour du public, c'est vrai que lui, il veut les records.
Exactement. Et puis, il a déjà gagné, il me semble.
Oui, il a déjà gagné. Ce serait sa 4e victoire à l'US.
Exactement. Donc, je pense qu'il va gagner ce soir et il va encore plus rentrer dans l'histoire.
Son adversaire, Daniil Medvedev, c'est quand même sa 3e finale de Grand Chelem. Il est excellent sur dur. Ça sera vraiment c'est la pire affiche pour Novak Djokovic pour réaliser cet exploit.
En plus, il l'a battu il y a quelques mois.
Oui, il l'avait étrié à l'Open d'Australie.
Il a vraiment l'ascendant psychologique sur ce combat, sur ce match, excusez-moi. Moi, pour moi, c'est le Cristiano Ronaldo du tennis. Hein. Vraiment, il bat tous les records. De saison en saison.
Et puis c'est vrai ce qu'il a dit après sa demi-finale, j'irai sur le court, même si je dois mourir sur le court, j'irai pour
gagner.
Et comme
si c'était le dernier match de ma vie. Voilà. Donc ça veut tout dire. Ouais.
Allez, vous écoutez RTL, il est 19h43, restez avec nous dans un instant. Nous retrouvons nos invités Tony Yoka, Suleiman Sissoko et Arnaud Péricard.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien aujourd'hui en France. On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
J'avais des frissons comme aux Jeux Olympiques lorsqu'on m'a remis la médaille. Voilà, cette ceinture, je la savoure aujourd'hui comme un titre de champion du monde. Je ne suis pas encore champion du monde, mais je vais aller la chercher, cette ceinture, ça c'est sûr.
Ça fait un an que je n'ai pas boxé avec du public. Donc il y avait cette pression en plus. Il y avait le public, il y avait... du bon monde qui est venu nous voir, il y avait le président. Vous n'avez pas envie de me louper et d'offrir une belle victoire aujourd'hui.
Je suis vraiment agréablement surpris, c'est magnifique. C'est vraiment une toute autre ambiance, mais c'est vraiment bien. Beau spectacle en plus, c'est top.
Suleiman Sissoko, est-ce que vous avez reconnu la dernière voix ?
Non.
Arnaud Péricard l'a reconnu. Exactement. Yannick Noah, dernier vainqueur français à Roland-Garros, a pris beaucoup de plaisir à avoir un ring au milieu du central. Il était d'ailleurs assis au premier rang. Ouais. C'est vrai que c'était une soirée merveilleuse à Roland-Garros. Cette ambiance, ces 8500 spectateurs, même Emmanuel Macron est venu. Alors racontez-nous, Souleymane, parce que vous l'aviez croisé au restaurant il n'y a pas très longtemps.
Exactement.
Vous dîniez dans les mêmes restos que le président, vous.
Bah, écoutez, c'est... voilà, on s'est croisés et puis à la fin, on a bien échangé. On a échangé plus d'une vingtaine de minutes et il m'a promis qu'il allait venir. Le président m'a promis qu'il allait venir, qu'il allait être présent. Et je suis très content parce que le président a surtout tenu sa parole. Et c'est une fierté pour nous. On en parlait hier avec Tony. C'est une fierté pour nous d'avoir le président. C'est la première fois, il me semble, d'avoir un président assisté à un gala de boxe. Donc c'est exceptionnel.
Ah, Arnaud Péricard.
Alors, François Hollande est venu à l'un des premiers combats de Tony, mais il n'était plus président.
Ok. Bon.
Ah ouais, nuance, ça change la donne quand même. Petite nuance. Est-ce que vous l'avez vu arriver ou pas? Il est arrivé pendant votre combat?
Oui, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver parce qu'on a senti un peu.
Un petit mouvement.
On a senti un petit mouvement, je l'ai vu arriver.
Ça met un peu plus la pression?
Oui et non, parce que bon, j'avais déjà conscience que le président allait venir. Quelques jours avant, on me l'avait confirmé. Donc, j'avais fait beaucoup de travail d'imagerie mentale, j'avais bien tout travaillé. Et puis, bien sûr, c'est impressionnant d'avoir le président être là, présent. Ça montre que voilà, la boxe, elle est là, elle est encore présente. Et puis, on nous le rend bien. Je suis très content de ça.
Et justement, Tony Yoka, il y a une envie de redonner ses lettres de noblesse à la boxe en allant dans des grands stades comme celui de Roland-Garros. C'est quoi la suite? De quoi vous rêvez, vous, Tony?
Complètement. Ça fait 5 ans maintenant qu'on fait en sorte de proposer de beaux galas, de beaux combats. Et je pense que vendredi dernier, on a vraiment montré que voilà, on redorait un petit peu le blason de la boxe en France en allant boxer à Roland-Garros dans des endroits où la boxe n'était plus allée depuis 50 ans. On avait vraiment du beau monde. Comme il l'a dit, le président de la République est venu, a passé une bonne soirée. On a tous remporté nos combats avant la limite. Je pense qu'on se doit de continuer à faire des soirées comme ça, peut-être même encore mieux, de remplir pourquoi pas un Parc des Princes ou un Stade de France dans quelques années pour un titre de champion du monde, pour Soulé, pour moi ou pour Mathieu ou quelqu'un d'autre.
Et le stade Pierre Mauroy à Lille, c'est pas mal, hein, il y a un toit et tout, c'est encore plus
feutré. Ce serait magnifique, hein. Ce serait magnifique.
Pas mal. Amaya,
qu'est-ce qui manque encore à la boxe française justement pour séduire totalement le public, Tony?
Il manque des champions maintenant, pas forcément que des champions sur le ring, mais aussi des champions en dehors. Nous, on a eu la chance d'avoir une belle exposition médiatique à Rio. Avec les 6 médailles qu'on a fait, on était le premier sport olympique français. Donc derrière ça, nous, on a pu surfer un petit peu dessus. Et c'est vrai qu'il y a énormément de bons boxeurs en France qui sont très bien classés ou qui ont été champions du monde, je pense notamment à Nordine Wally, qui ne jouissent pas de cette popularité. Et c'est dommage. Je me dis que si on arrive à faire de plus en plus de galas et à boxer tous ensemble en fait en France, ça ne peut que servir à notre sport.
Et ça passe aussi, Souleymane, par aller chercher des ceintures mondiales?
Bien sûr, aujourd'hui, le public français veut ça, ils ont hâte de ça, ils veulent des champions. Et on a un public qui est quand même très dur. Hein, donc,
Ils ne vous pardonnent rien.
Voilà, on ne nous pardonne pas grand-chose, donc à nous d'aller chercher ces ceintures. Pardon. Aujourd'hui, on est ambassadeur de notre sport, on est ambassadeur du sport français. Donc voilà, on doit continuer comme ça. Et puis j'espère que très bientôt, on saura ramener le maximum de public lors de nos galas.
Ah ben, est-ce qu'il y a quand même un petit paradoxe entre le fait que vous vouliez séduire la France, il faut effectivement que les gens viennent vous voir, mais vous vous délocalisez beaucoup aux States quand même et aux États-Unis pour vous entraîner avec des coachs qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Bah écoutez, en fait, pour ma part, en tout cas, je vais aux États-Unis. Déjà, c'est par rapport aux sparring partenaires. En France, c'est très compliqué. Vous savez, c'est le versant associatif, les salles, il y a des créneaux horaires, etc. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, le boxeur a du statut professionnel que le nom. C'est je suis professionnel, mais ils sont obligés de travailler à côté, ils sont obligés de faire pas mal de choses à côté. Tandis qu'aux États-Unis, c'est un métier, c'est un réel métier. On a des sparring partenaires qui viennent à la salle, qu'on paye, etc. Et ça nous permet de progresser. Là, on n'a plus de notion de temps, on s'entraîne, on peut rester 3-4 heures à la salle et ça nous permet d'évoluer. Mais personnellement, je devais boxer là dans quelques semaines devant 60 000 personnes. J'ai préféré
boxer
en France. Exactement, j'ai préféré boxer en France parce que voilà, le public, il est là, on sent la chaleur du public. Et c'est exceptionnel toujours de revenir à la maison.
À la différence de Souleymane, Tony, il y a une envie d'aller boxer aux États-Unis, d'être dans des grandes salles justement là-bas et peut-être de rencontrer des adversaires un peu plus costauds. Je pense notamment à Joe Joyce, votre adversaire de la finale des Jeux de Rio.
Forcément, j'ai envie de boxer dans tous les grands endroits de la boxe, donc Vegas, New York, même les grands stades en Angleterre. On a commencé après les Jeux à boxer en France. On veut continuer à boxer en France, mais on va aussi boxer à l'étranger. Il ne faut pas oublier qu'on veut une ceinture de champion du monde, donc ça veut dire le monde entier et il faut aller boxer partout. Maintenant, on essaye de continuer à monter dans le classement. Là, je suis numéro 15 mondial. On a envie de beaux noms, on a envie de Joe Joyce, c'est sûr. Je sais que je peux le battre, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, donc je pense que ça va se faire dans quelques temps maintenant.
Quant à Vasselin ?
Tony, vous avez 11 victoires et 0 défaites. Quel est le poids de ces 0 défaites pour les promoteurs ? Qu'est-ce que ça vaut d'être invaincu aujourd'hui ? Est-ce que c'est bankable plus que s'il y a eu une défaite ? Et donc c'est peut-être pour ça que vous craignez de battre quelqu'un de plus élevé, plus huppé ?
Forcément, ces dernières années, la boxe, c'est vraiment devenu un business. Et donc, personne n'a envie de perdre. Tout le monde veut garder son palmarès vierge de toute défaite. Moi, personnellement, ce que je répète à chaque fois, c'est qu'il n'y a aucun champion poids lourd qui s'est retiré invaincu. Ça n'existe pas. Que ce soit Mohamed Ali, Joe Frazier, Foreman, Tyson, Lewis, Klitschko, au bout d'un moment, ils ont tous perdu. Et je veux dire, c'est du sport. Tu tombes toujours sur quelqu'un plus fort que toi.
Mais ils s'affrontaient entre eux, justement, plus facilement.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les mecs ne s'affrontent pas, ils se cherchent. Et le public, en fait, ils en ont un petit peu marre. Pour moi, ce qu'il faut, c'est donner au public ce qu'il veut.
Et alors, justement, quand est-ce que vous nous donnez ce qu'on veut?
Et bah, quand écoutez, j'espère incessamment sous peu.
Ouais.
Revenir avec de bonnes nouvelles.
Et ce serait quand le prochain combat? Vous parliez de décembre, vendredi soir.
Ouais, on est en train de travailler dessus. J'étais encore au téléphone avec le promoteur tout à l'heure. On devrait boxer au mois de décembre.
En France ou à l'étranger?
Normalement, ce sera en France.
Paris ou en province?
On ne sait pas encore. J'avais une proposition à l'étranger, mais je me dis que ce serait bien de faire la fin d'année en France.
Je ne sais pas pourquoi je vais poser la question à Arnaud Perica. Il a l'air de vouloir
répondre à Anthony.
Il y a, quand on parlait du retour de la boxe professionnelle en France, évidemment à Paris, mais aussi en province, on a toujours, par exemple, eu un excellent accueil à Nantes, qui est une ville, ne me demandez pas pourquoi, qui adore la boxe. On a fait des salles pleines à Nantes, et je sais que Nantes est toujours intéressée pour avoir Tony et des beaux combats de boxe. Donc ça peut être, pourquoi pas à Nantes, mais ça peut être aussi dans d'autres villes de province.
La boxe, c'est aussi une thérapie. Et c'est avant tout une thérapie. Ça, c'est vous qui le dites, Souleymane. Parce qu'avec Amaya Cazenave, on voulait aussi parler de votre engagement avec, en association notamment, et votre engagement citoyen. Vous avez plusieurs associations. Le 19e arrondissement, votre quartier de Stalingrad, vous y tenez. Vous tenez à lui rendre ce qu'il vous a donné.
Bien sûr, c'est là où j'ai grandi. Et voilà, tous les dimanches, on s'entraîne avec les jeunes, il y a les mamans, il y a les plus jeunes, il y a vraiment de tout. Et puis oui, c'est une thérapie parce que ça leur fait du bien surtout. À la fin de chaque entraînement, ils ont le sourire, ça leur décharge de beaucoup de choses. Et moi, je le vois aussi au quotidien. La boxe, ça aide, ça permet d'extérioriser pas mal de choses qu'on a en nous-mêmes. Et ça aide dans la vie de tous les jours. Et puis au-delà de ça, c'est un sport qui est pétri de valeurs, de respect, de dépassement de soi, de confiance en soi. Et tout ça, c'est super important.
Comment on arrive à canaliser justement cette énergie qui est des fois dévorante? Vous la passez à travers la boxe. Il faut quand même, j'imagine, des fois aussi freiner quelques ardeurs pour pas que ça part dans tous les sens?
Bien sûr, avant tout, c'est le self-control. La boxe, on est là, voilà, on se contrôle, on essaie de gérer tout ça, de gérer toute cette haine, toute cette envie de bien faire. Enfin, cette envie
des fois,
de
il y a de la colère de trop faire, aussi, pardon, puis il y a colère, aussi.
Ouais. Ça permet de canaliser tout ça. Et puis le fait de taper au sac, le fait d'avoir un partenaire avec qui on échange, parce qu'il y a quelque chose qui se crée lorsqu'on a un boxeur en face de nous. Donc tout ça, ça permet de canaliser un peu toute cette énergie. Et puis ça peut aussi créer des vocations derrière.
Vous en avez déjà créé des vocations?
Dans le 19e, il y en a eu pas mal. Il y en a qui sont devenus coachs, d'autres qui ont commencé à faire des compétitions, etc. Et moi, c'est là où je suis très content. Moi, j'ai des jeunes avec qui ont eu un parcours très difficile en étant jeunes. Aujourd'hui, ils donnent des cours dans le 16e et c'est les parents d'élèves qui l'appellent. Oui, pourquoi là, il n'y a plus cours, etc. Écoutez, messieurs, dames, c'est la période Covid et c'est là où on se dit on a gagné quelque chose.
Je crois que vous étiez aussi attaché à cette mixité entre les quartiers parisiens. Vous avez fait rencontrer des jeunes qui venaient d'horizons très différents.
Exactement. Donc des jeunes du 19e arrondissement et d'autres du 12e. Voilà, c'est deux milieux sociaux différents. Et puis ce qu'on voulait, c'est échanger autour du sport. Parce que le sport aujourd'hui, c'est uni. Voilà, il y a toutes les couches sociales. C'est quelque chose qui rassemble surtout. Et ça s'est très bien passé. Il y en a qui sont restés amis jusqu'à présent. Et moi, je suis très content de ça. Et c'est là où j'ai ma victoire indirectement.
Vous faites souvent des choses. Quelle est la prochaine action que vous allez faire? Vous avez ramassé des déchets avec les gens, avec votre assos. Vous avez des prochaines dates à nous donner?
On espère faire un voyage au Sénégal. Ou
vous êtes né à Dakar, hein,
exactement,
on le
rappelle. Exactement. Je suis né à Dakar, donc on va essayer de faire un voyage au Sénégal. On va faire pas mal d'actions, pas mal d'activités. On va aider pas mal de personnes sur place. Et j'espère que ça va surtout prendre conscience, enfin donner conscience à beaucoup de jeunes. Voilà, on est très bien en France. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte de ça. Et pour moi, c'est un plus aujourd'hui d'être en France, d'être bien entouré et d'avoir tout ce qu'on a aujourd'hui.
C'est quelques musiques, c'est la bande originale d'Itinéraire d'un enfant gâté. C'est sur cette musique de Francis Lai que Roland Garros a rendu hommage à Jean-Paul Belmondo vendredi soir. Je voulais qu'on lui rende hommage aussi parce qu'après une minute de silence, d'une minute d'applaudissement pardon, à Roland Garros vendredi, une plaque commémorative au nom de l'acteur a d'ailleurs été posée hein, sur l'une des loges du Central parce que Bebel, il avait l'habitude de venir à Roland Garros tous les ans. Et puis on vous a vu, Tony, avec le portrait de Belmondo après votre victoire. C'était quelqu'un que vous connaissiez bien hein.
C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a déjà une dizaine d'années maintenant.
Il vous suivait depuis le début. Hein.
Qui était un passionné de boxe et qui m'a toujours soutenu, qui est venu à chacun de mes combats professionnels, que ce soit à Paris ou en province. Donc voilà, on s'est côtoyés dans les salles de boxe, mais aussi j'ai eu l'occasion de plusieurs fois avec lui.
De déjeuner, c'est ça, plusieurs fois avec lui, ça a coupé.
Ouais, j'ai eu l'occasion de déjeuner plusieurs fois avec lui, de prendre des conseils, de juste écouter parce que c'était une encyclopédie. C'est quelqu'un qui te faisait aimer en fait, qui te racontait des histoires et il va beaucoup nous manquer.
Et vous l'aviez rencontré aussi, Souleymane ?
Bien sûr, je l'ai rencontré pareil à plusieurs reprises. Et puis ouais, un article qui date d'il y a 3 ans, il parlait de Tony, il parlait de moi. Et comme je le dis, c'était une lumière pour le noblard, parce que lorsqu'il venait dans la salle de boxe,
Il se passait quelque chose. Hein. Je me souviens d'un combat à la Villette, je crois, si je me souviens bien. C'est vrai qu'il se passait quelque chose quand il était en tribune. C'était aussi un fan de PSG.
Fondateur.
Fondateur du club.
Ouais, il y avait d'ailleurs une belle banderole hier au Parc des Princes qui disait merci Bebel. Pouvait-on lire d'ailleurs au milieu de la tribune d'Auteuil, hein, itinéraire d'un fondateur du PSG. Un petit mot sur le PSG avant de nous quitter, Arnaud Péricard. Messi a signé. Voilà, vous êtes avocat. Est-ce qu'il vous a demandé de s'occuper de ses affaires en France?
Je m'occupe pas des affaires du PSG. Je suis en situation de conflit d'intérêts en tant que maire de Saint-Germain, mais je peux vous dire que ce qui est en train de se passer autour du PSG, déjà en tant que maire de ma ville, c'est exceptionnel. Voilà, ça, tout le monde sait maintenant où est, presque tout le monde sait où est Saint-Germain. C'est un accélérateur de notoriété pour nous, même si notre camp d'entraînement pour les professionnels va déménager sur Aigremont et Poissy dans 2 ans, 2 ans et demi environ. Voilà, tout ce qui est bon pour le PSG est bon pour ma ville et c'est une énorme fierté. Je rappelle que le numéro d'affiliation du PSG, c'est celui du Stade Saint-Germainois 1904.
Et justement, alors ses fils à Messi, je crois, sont au club d'ailleurs du PSG, à l'école du PSG. Il s'est installé à Saint-Germain ?
Écoutez, pas encore. Je n'ai pas d'informations privilégiées ou particulières sur son lieu d'installation. Pas simple à organiser, hein, la sécurisation de là où il habite. On a vu Marquinhos qui s'est passé à Chatou. On voit Neymar à Bougival. Voilà, ça devient des cibles. Et également, j'ai beaucoup d'anciens joueurs du PSG et beaucoup de joueurs actuels ou anciens qui habitent encore Saint-Germain ou à la périphérie de Saint-Germain. Donc on essaye de conserver leur intimité.
Merci beaucoup Arnaud Péricard d'avoir été avec nous ce soir. Merci Souleymane, on se retrouve bientôt. Merci Tony d'avoir été au téléphone avec nous.
Merci à vous.
La prochaine fois, c'est en studio. Hein. Sinon,
promis.
On fait un petit combat ensemble. Merci à Maya. Qu'est-ce qu'on pourra lire dans Le Parisien aujourd'hui en France?
Eh bien, du PSG avec notamment Mbappé. C'est une semaine décisive pour le PSG avec la Ligue des Champions qui commence et puis un match contre Lyon dimanche. On pourra lire ce jour où Mbappé a planté 30 buts. Parti, il était remplaçant Gronchon et puis après, il en a planté 3 contre Bruges. Ça, c'était il y a 2 ans. Et puis, on lira aussi Ander Herrera qui explose un peu aux yeux du public en ce début de saison et qui a peut-être une carte à jouer pour la Ligue des Champions.
Merci beaucoup à Maya, merci à Quentin, merci à Thibaut pour la réalisation. Dans un instant, RTL Foot. Pour le moment, la pub.